14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Vous vous rendez compte si je découvrais dans 30 ans qu'elle était en vie et qu'on n'a pas été assez, on n'a pas été si loin dans les recherches? La disparition, c'est la chose la plus effroyable qui arrive à une famille. Je ne sais même pas comment on arrive à continuer à vivre. On aimerait qu'elle nous envoie un signe.
Bonjour, qu'est-il arrivé à Tiphaine Véron? Depuis un peu plus de 3 ans, cette question taraude les proches de cette jeune femme de 36 ans, évaporée dans le décor bucolique de la montagne japonaise. C'était le 29 juillet 2018 et la silhouette de Tiphaine Véron s'effaçait comme par magie en pleine journée à la sortie d'un hôtel dans un coin fréquenté par les touristes du monde entier. Depuis cette date, la famille de la disparue, originaire de Poitiers, ne cesse de remuer ciel et terre pour que l'on retrouve sa trace, mobilisant les autorités françaises, mais se heurtant côté japonais à une enquête policière poussive, des blocages, des réticences, quelques découvertes, notamment de mystérieuses traces de sang dans la chambre d'hôtel. Mais à chaque fois, le silence est retombé au nom du secret. Pourquoi autant de mystères? Cette enquête a-t-elle encore une chance d'aboutir? Question que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Tiphaine Véron. Elle préparait ce voyage au Japon depuis 6 mois. Elle avait tout prévu dans les moindres détails, sauf l'impensable. À l'été 2018, elle va disparaître dans l'un des plus beaux paysages de l'archipel. Ce samedi 28 juillet 2018 à 16h30, Tiphaine Véron, vêtue d'un poncho imperméable bleu, d'un pantalon blanc à motif noir, les cheveux lâchés, pose sa grosse valise dans la chambre Mars en français, de l'hôtel Turtle Inn à Nikko. À 150 km de Tokyo, cette petite ville, posée dans une montagne où abondent temples et sanctuaires, est un haut lieu de pèlerinage. Les touristes s'y précipitent. Pas moins de 12 millions de personnes transitent ici chaque année sur les bords de la capricieuse rivière Daya. Tiphaine a débarqué la veille au soir à l'aéroport de Tokyo Narita en provenance de Roissy. Samedi matin, elle a pris le train jusqu'à la vieille gare de Nikko. Lors d'un changement, la vidéosurveillance la montre seule dans la même tenue que celle qu'elle porte lors de son arrivée à l'hôtel. L'assistante de vie scolaire de Poitiers voyage en solo. Elle était venue une première fois au Japon 5 ans auparavant et rêvait d'y retourner. Elle touche au but avec ce séjour qui doit durer 3 semaines, tellement enthousiaste qu'elle rejoint à pied son hôtel à 2 kilomètres de la gare en tirant sa lourde valise. Comme toujours, elle s'empresse d'envoyer un message sur le groupe WhatsApp de sa famille pour donner ses premières impressions. Elle est ravie. 2 heures plus tard, elle se restaure dans une épicerie de quartier. Elle discute avec un couple de touristes français, les Hardy. Ils lui conseillent de visiter les temples de Kamangafushi Abyss. Les Hardy décriront la touriste comme agréable et pas stressée. Dimanche 29 juillet, alors que la pluie n'a cessé de tomber une bonne partie de la nuit, Tiphaine Véron se réveille vers 7h du matin, heure attestée par les relevés de téléphonie. À 8h30, elle se retrouve en débardeur blanc dans la salle de petit déjeuner du Turtle Inn. Il y a là 2 hommes français qui visitent aussi la région, ainsi qu'un couple d'Allemands. Elle échange quelques mots avec les uns et les autres, précise qu'elle a l'intention d'aller visiter les temples et les abords du lac Shuzenshi. Aucun signe d'inquiétude chez la jeune femme. Dans ses dépositions, le patron de l'hôtel affirme l'avoir vu partir en randonnée autour de 10 heures. Il est formel, mais les données téléphoniques ne donnent pas le même horaire. Tiphaine a profité du Wi-Fi de l'hôtel jusqu'à 11h40. Elle a consulté sa messagerie et a même envoyé un mail à sa banque en France. Après 11h40, et alors que la touriste avait programmé une randonnée à pied jusqu'au temple, le téléphone va demeurer désespérément muet, plus aucune activité, comme si l'appareil avait été éteint ou qu'il ne fonctionnait plus. Au soir du dimanche 29 juillet, l'hôtelier constate que la cliente française n'est pas rentrée. La clé de la chambre marche est toujours accrochée au tableau. Elle y est encore le lundi matin. L'hôtelier prévient alors le commissariat de Nikko, mais les policiers sont loin d'être inquiets. Il est trop tôt pour lancer une enquête. De simples vérifications suffisent. Tiphaine Véron, 36 ans, a peut-être décidé d'aller passer la nuit ailleurs. En outre, il est d'usage au Japon que les autorités ne s'alarment pas à la moindre disparition. Près de 100 000 personnes disparaîtraient chaque année dans l'archipel, la grande majorité étant des départs volontaires, une envie de changer de vie. Rien qui ne cadre avec la psychologie et le style de vie de Tiffen, ni avec le programme qu'elle s'était fixé. Elle avait réservé ses hôtels, noté dans un carnet tous les lieux à visiter, l'ambassade de France au Japon. Puis la famille sont alertées. Cette absence est inexplicable. Le 1er août 2018, la famille Véron est au commissariat de Poitiers pour signaler la disparition inquiétante de Tiffen. Accident, enlèvement, meurtre, la famille de Tiffen ne peut s'empêcher de penser au pire. Elle va se rendre au Japon pour inciter les autorités à lancer une enquête digne de ce nom. Les investigations en cours se révélant pour le moins timides. Dès le lundi 30 juillet 2018, lendemain de la disparition de Tiffen Véron, les policiers du commissariat de Nikko procèdent aux premières constatations. Ils se rendent ainsi à l'hôtel Turtle Inn et se font ouvrir la chambre marche, celle où la Française a passé la nuit. Aucun désordre n'est constaté, les affaires de la touriste sont en place, sa grosse valise à roulettes est là. Son passeport est resté dans la chambre ainsi que des feuilles manuscrites, un carnet de route dans lequel Tiffen a consigné tous les lieux qu'elle souhaitait visiter. Rien ne laisse présager une soudaine dépression, l'envie de disparaître. Les policiers interrogent l'hôtelier et des riverains. Personne ne semble avoir vu ou avoir croisé la Française. Dans les jours qui suivent, le dossier est confié au commissariat central de Toshigi, le chef-lieu de la région. Des hommes sont envoyés aux endroits où la touriste aurait pu se rendre, le secteur des temples et les rives dans le lac. Des pêcheurs sont questionnés, la photocopie du passeport de la disparue leur est présentée sans résultat. Un drone est utilisé pour survoler certains secteurs, mais ces recherches ne donnent rien. Il faudra attendre 9 jours pour qu'un avis de recherche en bonne et due forme avec photos de Tiffen Véron, rédigé en japonais et en anglais, soit affiché un peu partout en ville. Le 3 août, les deux frères et la sœur de Tiffen Véron arrivent à Nikko. Ils sont pour le moins désorientés. La famille s'aperçoit que la police locale est bien saisie du dossier, mais que pour autant aucune enquête n'est vraiment ouverte. Bien que la haute technologie soit omniprésente au Japon, les enquêteurs ne disposent dans le cas présent que de quelques images de vidéosurveillance, celles de la gare. Pour le reste, celles des quelques caméras locales n'ont pas été exploitées. Et les images qui pouvaient s'y trouver ont sans doute été automatiquement effacées. Sous la pression de la famille, les policiers réentendent les patrons de l'hôtel, les clients qui s'y trouvaient, ainsi que des témoins, auditions rapides et banales. Après quelques jours sur place, la famille est invitée à assister au travail de la police scientifique dans la chambre de Tiffen. Sans doute, les autorités veulent-elles montrer leur bonne volonté. L'un des frères est ainsi présent lors de cette inspection où les policiers utilisent du luminol, substance chimique qui permet de révéler les plus infimes traces de sang. Contre toute attente, une projection de sang est détectée sur un mur. Mais aucune explication ne sera donnée à cette découverte qui étonne les enquêteurs eux-mêmes. Les policiers locaux interrogés par le site d'information Les Jours diront qu'ils ne peuvent pas révéler qu'il s'agit de traces de sang, confirmant toutefois la réaction au luminol. 7 août 2018, la mère de Tiffen Véron, Anne Désert, s'adresse au président de la République, Emmanuel Macron. « Monsieur le Président, nous avons besoin de votre aide, l'enquête piétine. » La police japonaise est peut-être piquée au vif et les recherches sur le terrain sont désormais plus intenses. Le 10 août, une grande battue, une soixantaine de policiers, une quinzaine de volontaires est organisée sur le site des Kamangu Kafushi Abyss, où devait se rendre la Française. Un témoin l'aurait aperçue sur place. Les rives de la rivière Daya sont explorées. Tiffen aurait-elle chuté dans ce torrent et se serait-elle noyée? Aucune trace ici de la disparue. La famille ne va alors cesser de se mobiliser pour que les recherches continuent. Le 9 septembre, Sybille, sœur de Tiffen, lance un appel aux touristes de Nikko pour savoir s'ils disposent de photos. Initiative que n'avait pas pris la police local. La famille est donc décidée à savoir ce qu'il est advenu de Tiffen. Malgré les années qui s'écoulent, les proches vont reprendre les investigations à bras-le-corps. La thèse du meurtre de la mauvaise rencontre est privilégiée. Ce 28 juillet 2020, 2 ans pile après la disparition de Tiffen, la police de Toshigi convoque les journalistes pour faire un point sur l'enquête. Il s'agit en fait d'une opération de communication destinée à montrer le sérieux du travail accompli. Distribution d'avis de recherche dans l'enceinte de la gare de Nikkō, démonstration d'une équipe de plongeurs dans la rivière qui serpente autour de la petite ville, première et ultime étape du voyage au Japon de Tiffen. De son côté, la famille continue à se poser bien des questions. La juge de Poitiers et les policiers du SRPJ ont tout le mal du monde à obtenir des informations de la justice et de la police japonaise. Grâce notamment à l'opérateur Free, les proches ont pu obtenir les relevés des appels de la jeune femme jusqu'au jour de sa disparition. Il apparaît ainsi que ce 29 juillet 2018, à 20h11 dans la soirée, donc, le téléphone de Tiffen a émis un signal qui n'a jamais pu être éclairci ou réellement expliqué. Sur place, la police n'a en outre jamais communiqué les données GPS de l'appareil. Seul moyen de le localiser en temps et en heure, elle n'en aurait pas fait la demande auprès de l'opérateur local. Le 20 février 2019, une déclaration de présomption d'absence est déposée par la famille au tribunal d'instance de Poitiers. Procédure permettant d'accélérer le règlement de questions administratives. L'enquête, elle, ressemble à une course de longueur. Au mois de mars de la même année, certaines pièces de procédure sont enfin traduites. Au mois de mai, une équipe de policiers est enfin envoyée au Japon et dans la ville de Nikkō pour récupérer des documents. Le commissaire de Poitiers, accompagné d'un officier du SRPJ, sont soumis à la procédure d'entraide judiciaire internationale. Ils sont donc réduits à un simple rôle d'observateur. Ils ne peuvent pas enquêter. Ils se font remettre les auditions des dernières personnes ayant vu Tiffen vivante, notamment celle des clients et du patron de l'hôtel Turtle Inn. La famille de Tiffen Véron entend bien ne pas en rester là. Elle va continuer contre vents et marées à alerter les autorités, à solliciter les plus hautes personnalités. Elle va faire également appel à un enquêteur privé. Au début de l'année 2020, et alors que les investigations semblent condamnées au surplace, la famille de Tiffen Véron et leur avocat Antoine V se rapprochent de l'enquêteur privé Jean-François Abgral. Cet ancien gendarme qui exerce désormais de façon indépendante est une figure bien connue de la criminologie et de la justice. C'est lui qui avait obtenu les confidences du tueur en série Francis Holmes, c'est encore lui qui avait fait progresser les recherches sur un autre meurtrier et violeur, le chauffeur de car Émile Louis. Abgral accepte le défi, à savoir une enquête à des milliers de kilomètres de la France. Même si les Japonais semblent pencher en faveur d'un accident, la thèse de la mauvaise rencontre par un habitué des lieux, voire même d'une séquestration, cette thèse est loin d'être écartée par l'enquêteur privé, tout comme par la police judiciaire de Poitiers. Il apparaît que cette région touristique, réputée tranquille et sûre, ne le serait pas autant que cela. Juste avant le temple de Takino, un panonceau a longtemps alerté les touristes de rester sur leur garde. Un individu rôderait dans le secteur. Il importunerait les femmes, et notamment les femmes seules, après s'être présenté à elles en qualité de guide touristique. Il les inviterait à monter dans sa voiture pour une visite gratuite. Tiffen Véron, qui a appris à déchiffrer le japonais sans pouvoir le parler couramment, avait-elle lu cet avertissement ? Le fait est que cet homme, propriétaire d'un véhicule rouge, est connu de la police. Il n'aurait toutefois pas été entendu dans ce dossier. Un site d'information local, le Tokyo Reporter, rapporte des meurtres de femmes autour de Nikkō, des crimes qui ne seraient toutefois pas liés entre eux. Des autorités japonaises qui, malgré tout, sont très timides pour évoquer la piste criminelle, option à laquelle s'accrochent les proches de la disparue, toujours mobilisés en dépit des années écoulées. Le lundi 18 octobre 2021, un peu plus de 3 ans après la disparition, les proches de Tiffen interpellent Emmanuel Macron, qui ce jour-là se déplace à Poitiers pour y lancer les états généraux de la justice. Ce n'est pas la première fois que le président de la République est contacté par les proches de la disparue. Le 17 octobre 2018, Sybille Véron, sœur de Tiffen, avait déjà attiré l'attention du chef de l'État dans la cour de l'Élysée lors de la visite du premier ministre d'alors Shinzo Abe. Intervention qui avait produit un réel effet. Emmanuel Macron avait relayé le message auprès de son hôte, lequel l'avait transmis à la police japonaise. On espère que l'État japonais va collaborer avec la justice française On demande au président Macron qu'il ne lâche pas la pression sur le Japon, indique alors Damien Véron, l'un des frères de Tiffen. La famille Véron entend bien retourner au Japon dans les mois qui viennent afin d'explorer toute une série de points restés en suspens. Des proches qui continuent à solliciter témoignages et renseignements, le moindre détail qui pourrait contribuer à faire jaillir la vérité autour de la disparition de Tiffen.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.